Radio Crochet.
Radio Crochet.
Radio Crochet.
Radio Crochet.
Radio Crochet.
Radio Crochet des résidents de Camarès.
C'est déjà de composer les Radio Crochet.
Radio Crochet, l'émission des résidents du Sherpa de Camarès.
L'atelier du lundi.
Et on avait évoqué aussi la dernière fois l'idée de parler de tout ce qui, de tous les événements qui vous ont marqué là depuis, je dirais, votre entrée dans l'âge adulte jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire, qu'est-ce que, si vous deviez expliquer un petit peu l'histoire aux plus jeunes, qu'est-ce que vous diriez dans les événements un peu d'actualité ou de, qu'est-ce qui vous a marqué le plus? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit comme ça, en premier?
Ce qui me vient à l'idée, c'est pas gay, c'est quand la déclaration de guerre. J'avais 10 ans, 11 ans, là, oui, ça m'avait marqué. Quand j'ai entendu les cloches sonner, qu'on a dit que la guerre était déclarée avec les Allemands.
Et est-ce que vous vous rappelez de la libération, justement, de la fin de la guerre?
Oh, c'était pas quelle année, je me rappelle pas mal. Ça devait être 44-45, c'est.
Et vous, monsieur?
Moi, ce qui m'a marqué, c'est à la libération, les combats de la pesade. Il y a eu quatre cercueils alignés dans l'église de Camarès. Jamais vu ça, et j'espère que je le reverrai jamais. Hein. Il y en avait quatre camarésiens.
La pesade. Vous vous rappelez de la pesade?
Ils ont tué des maquisards, les Allemands. Boum, boum, comme ça. Les autres, ils les attendaient à la pesade parce qu'ils montaient. Mais c'est pas eux qui les ont eus, c'est les Allemands qui les ont eus à eux.
C'était la fin de la guerre, je crois.
Oui. Ouais. Par là, oui.
22 août.
44.
La pesade, on voit quand on est sur l'autoroute, qu'on descend vers Montpellier.
Oui, il y a les croix.
Il y a les croix,
là,
oui.
Et tous les ans, au 22 août, il y a un hommage qui est rendu.
Les maquisards qui ont été tués.
Oui, je crois que le plus jeune avait 17 ans, ils étaient assez jeunes.
Il y avait un Santoul de Camarès aussi.
Oui.
Attendez, il y en avait une autre.
Au
Bolo, le fils au Bolo. Mais Camarès, c'était le premier. Camarès de Caselle, c'était le premier pied. À la pesade, il y a eu Santoul de Camarès. Il y a eu le fils au Bolo, le transport du car.
Des jeunes que vous connaissiez?
Eh, c'était des jeunes plus âgés que moi, mais qui avaient 18 ans à l'époque, peut-être.
Vous les avez connus?
Voilà,
oui, on les a connus.
Moi, je les ai connus parce que il y avait un fajou. On avait gardé pendant l'occupation, à la demande de son père, un gars qui avait refusé de partir. Alors, il est resté avec nous. Il était gentil comme tout, c'est incroyable.
Et il était au maquis.
Et il était au maquis.
Les ennemis étaient chez moi, ils m'ont dit résigne-toi, mais je n'ai pas pu. Personne ne m'a demandé d'où je viens et où je vais, vous qui le savez. Effacez mon passage, j'ai changé 100 fois de nom, j'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant d'amis. Et j'ai la France entière. Les Allemands l'ont pris. Il est mort sans surprise. Hier encore nous étions trois. Il ne reste plus que moi. Et je tourne en rond dans la prison des frontières. Le vent souffle sur les tombes. La liberté reviendra, on nous oubliera. Nous rentrerons dans l'ombre. Nous
Radio Crochet.
Radio Crochet.
Radio Crochet, l'émission des résidents du Sherpa de Camarès.
Sur Radio Saint-Afrique.
Et vous m'avez dit hier, monsieur Fajou, que votre cousin était un résistant.
Et oui, c'est-à-dire que c'était un étudiant, il était en troisième année de médecine, et il était normalement, il devait aller en Allemagne. Et mon oncle, en fait, son père, était d'accord avec lui pour dire pour aller travailler en Allemagne. On va le cacher au Cross. Le Cross, c'est ma. J'avais une ferme, enfin, j'avais une ferme, pas moi, mes parents, une petite ferme. Et on a dit tout de suite oui. Hein. C'était un gars extrêmement sympa. Il aimait beaucoup les filles, mais bon, c'était pour ça qu'il était difficile de le maintenir en place. On ne pouvait pas l'attacher. Hein.
Il s'appelait
Émile Fajou. Vous avez son nom sur la stalle de la Pesada.
Et vous aviez quel âge, vous, quand vous l'avez côtoyé?
Ben, j'avais 13 ou 14 ans. J'ai côtoyé, on est resté longtemps ensemble. Là.
Quand il était réfractaire et qu'il était au Cross, qu'est-ce qu'il faisait de ses journées?
Il courait après les filles.
Il courait après les filles, mais ça veut dire que beaucoup de gens du secteur savaient qu'il était caché là, chez vous?
Oui, mais bon, encore, les gens le savaient, mais on n'a pas trouvé de malveillance, sauf une ou deux conneries que les gens ont fait. Comme un jour, par exemple, on était couchés tous les deux dans la même chambre. Et les gens d'à côté, d'ailleurs, de Saint-Martin, sont venus pour nous faire peur. C'est la Gestapo, enfin. On les a engueulés, bien sûr, mais après, ça serait bien passé, mais ça aurait pu mal se passer.
Et à quel moment Émile a décidé de rentrer dans le maquis, de s'investir?
Je crois qu'il avait quand même l'impression qu'il ne faisait pas tout ce qu'il pouvait faire. Alors il a commencé par. Il a travaillé avec Brigitte Rachou. Et alors là, ils ont fait certainement des choses qu'on ne connaît pas.
Donc c'était une fille, Brigitte, et un garçon, Émile, et tous les deux, ils distribuaient des tracts, ils écrivaient des choses.
Alors lui, il disait qu'il allait au château Rachou pour donner des cours de maths, enfin des choses.
Et donc là, il disparaissait la nuit, et il rentrait le matin.
Oui, mais il en a fait des kilomètres. Hein. Il n'arrivait pas à traverser les montagnes pour aller voir une fille. Hein. Oh, c'est quelque chose. Hein.
Et est-ce qu'il vous raconte...
était extrêmement sympa.
Est-ce qu'il vous racontait à vous? Il vous disait, ça y est, je suis dans le maquis, je fais des choses?
Pas trop. On le savait quand même. Hein, parce que on l'a fait aussi, surtout le jour où il est arrivé. On leur avait parachuté des tenues, des armes et tout ça. Et il n'a pas résisté au plaisir de venir habillé en résistant.
Il revenait tous les soirs à la maison quand même, quand il était au maquis? Il revenait tous les soirs ou non?
En principe, on ne le suivait pas quand même. De toute façon, il était incoinçable. Hein. Il était d'une gentillesse incroyable. Et moi, je l'ai beaucoup aimé.
Et c'était le maquis Paul Clé?
Paul Clé, oui. Maintenant, ça, c'est pareil. À l'époque, ça, il ne nous disait pas à nous. On l'a su un peu après, quoi. On a beaucoup regretté que. Bon, il avait ce qu'il croyait être bon, hein, ce qui était bon, certainement. Hein. Il n'était pas très bavard sur ses activités. Il ne fallait pas, d'ailleurs.
Comment s'est passée cette fameuse journée du mois d'août où il est allé à la Pesada?
Ben, c'est-à-dire que là, il avait reçu des ordres des patrons des maquis de l'époque qui leur disaient qu'il fallait ralentir. Il y avait une colonne allemande qui allait passer par là et qu'il fallait les ralentir à tout prix pour préserver d'autres forces françaises de l'intérieur. Ah, ben, il a dit, depuis le temps qu'on les attend, tu parles, les autres, ils ont été prévenus. Ils étaient planqués quand ils sont arrivés là-haut en croyant faire aller. Ben, ils sont tombés dans un traquenard, un vrai traquenard. qui ont été un peu massacrés, disons que lui c'est un des derniers qui est mort, parce que bon bah c'était un peu son métier de faire de la médecine, donc il est resté jusqu'au bout. Et je crois que on nous a dit que on leur avait acharté, on leur avait coupé la langue, un truc affreux quoi. Affreux. Et après, quand il faut après prévenir les parents que la personne que, qu'on s'est engagé à protéger.
Qui c'est qui a prévenu les parents d'Émile ?
Eh ben, c'est nous.
C'est vous.
Et oui, c'est mon frère. Et mon père qui arrive à la haut, qui a affaire. C'est pas facile ça. Parce que bon, bah, les bons sentiments, c'est bien. Après, il y a la réalité des choses. Pour moi, c'était un souvenir inoubliable. Parce qu'il était avec moi, il était d'une gentillesse. Disons qu'il me faisait le deuxième instituteur, peut-être.
Et vous aviez 13 ans, donc vous avez été très touché par le décès de votre cousin.
Ouais.
Et à cet âge-là, vous vous êtes dit, il est mort pour rien ou il est mort pour quelque chose ?
Moi, je ne pouvais pas dire qu'il était mort pour rien, parce que je l'ai tellement admiré, disons que c'était presque un peu... Pour moi, c'était... Il est presque un dieu. Son action a servi peut-être à quelque chose quand même, parce qu'ils en ont entraîné d'autres. Il y a eu des choses qui... Maintenant, le temps qu'il est resté caché chez moi, je ne sais pas, il m'a servi à moi toujours.
Est-ce qu'il vous a transmis ces valeurs de combattant, de résistance? Ça vous a poursuivi tout le long de votre...
Je n'en parlais pas tellement. Mais je trouve qu'il a fait une partie de mon éducation, même si... Je ne lui reprocherai jamais rien, au contraire. Simplement, j'ai regretté que ce soit le dernier jour qu'il soit fait tuer et massacré comme ça. Tous les ans, je suis allé à la pesade, tout le temps. À l'époque, j'admirais aussi parce que, à cause de ses filles, il a été amoureux. Amoureux d'une fille, repliée, elle aussi comme lui à Fayette. Le problème, c'est qu'elle, c'était une fille riche, bon, ça à la limite, mais elle était catholique et lui, il ne croyait pas grand-chose. Alors, je me rappelle, à l'époque, il y avait des. Comment on appelait ça? Des missions.
Missions catholiques.
Et aussitôt, quand il a su ça, il a dit mais moi, si on arrive à me prouver. Telle était la chose. Je me convertis et tout ça. Il a fait la mission. Hein. Mais bon, là, on n'a pas réussi à le convertir.
Et est-ce qu'il y a une plaque au cross qui indique Émile Fajou, ou alors on la trouve que...
On l'a mise à Camarès.
À Camarès.
Parce que c'est plus central quand même. Et vous voyez où était la perception, là, hein, en bas. L'escalier là.
Mmh.
Il y a une plaque là.
Il est enterré où, Émile ?
À Riac, dans le Cantal, chez ses parents. Ils avaient une maison là-bas. Et ça fait partie des personnes qui ont compté dans ma vie.
Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, tous deux adoraient la belle, prisonnière des soldats, lequel montait à l'échelle et lequel guettait en bas. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas.
Vous pourrez écouter cette émission sur Radio Centrafrique.
Vous pouvez aussi la télécharger sur Internet en allant sur la page Radio Cochet.
Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, tous les deux étaient fidèles. Des lèvres, du cœur, des bras, et tous les deux disaient qu'elle vive et qui vivra verra. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, quand les blés sont sous la grêle, vous qui fait le délicat, vous qui songe à ces querelles, au cœur du commun combat. croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Du haut de la citadelle, la sentinelle tira. Par deux fois et la chancelle, l'autre tombe qui mourra. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, ils sont en prison, lequel a le plus triste grabat, lequel plus que l'autre gèle, lequel préfère les rats. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, un rebelle est un rebelle, nos sanglots font un seul glas, et quand vient l'aube cruelle, passe de vie à trépas. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, répétant le nom de celle qu'aucun des deux ne trompe pas, et leur sang rouge ruisselle, même couleur, même éclat. Il coule et se mêle à la terre qu'il aima, pour qu'à la saison nouvelle mûrisse un raisin muscat. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, l'un court et l'autre a des ailes, de Bretagne ou du Jura, et framboise ou mirabelle, le grillon rechantera, dite flûte ou violoncelle, le double amour qui brûla, l'alouette et l'hirondelle, la rose et le réséda. Oh.